VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Bamako, midi à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Afrique de l'Ouest, Charles Blé Goudé, un proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, emprisonné comme lui à la Cour pénale internationale de La Haye, porte plainte devant la justice ivoirienne pour séquestration et violence pendant sa détention en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes pro-Gbagbo, affirme avoir subi des sévices pendant les 14 mois qui ont suivi son arrestation au Ghana. Plus de détails avec son avocat à Abidjan, maître Serge Bougnon.
Il s'agit en fait des tortures qu'avait subies à l'époque M. Blé Goudé lorsqu'il avait été transféré du Ghana en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez qu'il a passé 14 mois de torture entre des mains de certaines personnes. Et à cette époque, on ne pouvait pas porter plainte parce qu'il était en Côte d'Ivoire, c'était beaucoup plus difficile. Et c'est maintenant qu'avec l'accord de notre client, on a décidé de déposer une plainte pour séquestration et torture entre les mains le directeur de la DST, le sous-directeur plus un autre agent. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il arrive beaucoup de tortures. Je vous dis juste qu'il a subi effectivement un ensemble de tortures qui a même abouti à une audition. Et on a brandi un procès verbal d'audition qu'il aurait signé.
Maître Serge Bougnon, joint par Nicolas Pinault. En RDC, inquiétude sur le sort de Mathieu Ngoudjolo, premier inculpé à être acquitté par la Cour pénale internationale, et rapatrié hier à Kinshasa après le rejet par le gouvernement néerlandais de sa demande d'asile aux Pays-Bas parce qu'il craignait de faire l'objet de poursuites dans son pays. Ses proches disent ne pas savoir où il se trouve depuis son retour à Kinshasa. Human Rights Watch suit de près le dossier du leader du Front nationaliste et intégrationniste FNI. Des précisions avec Aïda Sawyer, chercheuse principale de cette organisation de défense des droits humains basée à New York, au micro d'Eddie Isango.
On a parlé avec lui et avec les services de sécurité et son avocat. Il est à un hôtel ici à Kinshasa et selon nos informations, il est en sécurité. Nous espérons que les autorités congolaises vont garantir sa sécurité et on va suivre de près la situation ainsi que d'autres observateurs.
Aïda Sawyer en ligne avec Eddie Sango. Crise au Burundi, à Dar es Salaam en Tanzanie, les dirigeants des 5 pays de la communauté est-africaine sont réunis au sommet pour discuter de la crise au Burundi, un État membre. Sur le terrain à Bujumbura, poursuite des protestations contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. L'influente Église catholique menace de retirer ses membres de la commission électorale si les élections ne sont pas reportées. En RCA, le forum de Bangui s'est achevé en début de semaine par l'adoption de dizaines de recommandations, dont la prolongation de la transition et le report des élections présidentielles et législatives. Maître Mathias Monrouba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, revient sur le volet justice, un des thèmes débattus au cours des assises. On l'écoute au micro de Félix Epassis Zembrou.
Le forum de Bangui a été une occasion où le peuple centrafricain a pu s'exprimer librement sur les questions qui touchent à l'avenir de ce pays. Le peuple centrafricain s'est réconcilié avec lui-même et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui a marqué chaque participant et chaque participante à ce forum.
Maître, vous avez présidé la commission justice et réconciliation lors de ces assises. Qu'en est-il justement du volet justice?
Nous avons dit au cours de nos débats que nous pensons qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont commis du tort au peuple centrafricain doivent s'expliquer devant la justice centrafricaine, doivent s'expliquer devant la justice tout court, et que les victimes doivent recevoir réparation de l'ensemble des préjudices en subi. Et nous avons aussi pensé que l'heure est venue pour que tout le peuple centrafricain puisse se réconcilier avec les autres, et que ceux qui sont chrétiens ou musulmans doivent se tenir la main. Et pour marquer cette volonté de réconciliation du peuple centrafricain, nous avons tous accepté de faire légaliser dans les meilleurs délais les deux fêtes, la fête de Ramadan et la fête de Tabassi, pour nous permettre aux uns et aux autres d'être ensemble ce jour-là.
Selon vous, la création de la Cour pénale spéciale soit-elle effective?
La Cour pénale a déjà été créée par la loi. Nous attendons la promulgation de cette loi et son opérationnalisation. C'est une priorité pour nous aujourd'hui. Nous pensons que dans les meilleurs délais, la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine sera opérationnelle et que les juges et les avocats et le personnel de cette juridiction vont se mettre à l'œuvre pour permettre à toutes les victimes de se faire entendre.
Quand vous parlez, maître de justice, vous pensez implicitement aux anciens chefs d'État, François Bozizé et Michel Dotodia, qui ont été les principaux acteurs de cette crise centrafricaine.
Il n'y a pas que les deux, il y a tous ceux qui ont causé du tort au peuple centrafricain doivent s'expliquer devant la justice.
Maître Mathias Mourouba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, joint à Bangui.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise en Libye, alors que la communauté internationale débat des moyens de secourir les migrants qui tentent la traversée périlleuse de la Méditerranée vers l'Europe, souvent à partir des côtes libyennes, la Libye met en garde contre l'envoi sans permission de navires étrangers dans ses eaux territoriales. Timothée Donangmaï nous en dit plus.
Dans un communiqué publié sur Facebook et que cite l'AFP, le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale prévient que les bateaux étrangers ne peuvent pas entrer dans les eaux territoriales du pays sans coordination préalable avec les autorités compétentes. En l'absence d'un tel feu vert, il s'agirait d'une atteinte à la souveraineté de l'État libyen, précise le communiqué. Dimanche, l'aviation de ce gouvernement a bombardé un cargo turc, tuant un marin à bord. Un député libyen a affirmé que le bateau tentait de pénétrer de force dans les eaux libyennes. Selon lui, des bateaux ont pénétré dans ces eaux par le passé pour soutenir les groupes terroristes en leur fournissant des armes et des munitions. Pour sa part, le gouvernement libyen, non reconnu par la communauté internationale, a déploré ce qu'il estime être une agression violente contre le navire turc qui, a-t-il dit, se trouvait dans les eaux internationales au moment de l'attaque.
La Commission de l'Union européenne devrait présenter aujourd'hui sa nouvelle stratégie pour l'immigration. Une annonce qui survient plus tôt que prévu en raison des naufrages et autres drames en Méditerranée cette année qui ont coûté la vie à de nombreux candidats à l'immigration en Europe. Salwa Jafari.
La commission de l'UE devrait dévoiler un plan qui va appeler à partager, à travers un système de quotas, le nombre de migrants légaux dans le bloc européen, afin d'alléger le fardeau des États du sud de la région, notamment l'Italie. Les grandes lignes du projet sont connues, d'autant qu'elles ont été ébauchées devant le Parlement européen. Il entend conforter le rôle de l'Agence de surveillance des frontières, Frontex, amplifier la lutte contre les passeurs, renforcer le système de protection pour les réfugiés, accélérer le retour des illégaux et ouvrir le dossier de la migration économique. Le texte pourrait préciser dès lors que la migration légale serait possible pour des personnes dotées de compétences recherchées en Europe afin de pallier certaines pénuries de main-d'œuvre, quitte sur ce point à prendre le contre-pied d'une partie des membres de la Commission. Écoutez sur ce point le plaidoyer de Federica Mogherini, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Finalement, l'Union européenne se rend compte qu'elle doit prendre plus de responsabilités de manière très active et rapide. Il faut qu'il y ait un même niveau de prise de conscience de la nécessité de travailler ensemble à l'échelle mondiale, notamment par le Conseil de sécurité, par le système des Nations Unies et au niveau national. Les chefs d'État n'ont jusqu'ici pu se mettre d'accord sur un projet qui pourrait prendre en compte le taux de chômage, le nombre d'habitants et le nombre de réfugiés dans un pays pour fixer le nombre de personnes qu'ils devraient accueillir.
Actualité aux États-Unis, le président Barack Obama exhorte les Américains à se mobiliser davantage pour lutter contre la pauvreté dans leur pays. Le point avec Félix Yepassi Zembro.
S'exprimant à l'occasion d'une conférence sur la pauvreté à l'Université de Georgetown, ici à Washington, le chef de l'exécutif américain a élargi le débat. Il n'y a aucune raison que l'une des nations les plus prospères au monde ne puisse pas faire davantage pour renforcer l'égalité, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays a une question fondamentale.
What portion of our collective wealth and budget are we willing to invest?
Quelle part de notre richesse collective et du budget sommes-nous prêts à investir dans ce qui peut permettre à un enfant pauvre d'une ville rurale ou dans les Appalaches ou dans les centres-villes d'accéder à ce dont il a besoin, qu'il s'agisse de conseillers, de réseaux sociaux ou de livres et ordinateurs décents, et ainsi de suite. Bref, ce qu'il lui faut pour réussir. Pour le président américain, personne ne veut être pauvre. Mais les gens naissent souvent dans la pauvreté. Réduire la pauvreté nécessite de la volonté politique et des investissements du gouvernement, a-t-il souligné.
Pour terminer, conflit au Yémen, le Conseil de sécurité de l'ONU se félicite de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu humanitaire de 5 jours dans le pays. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.